RCF. Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de notre émission La vie militaire dans Cher et le Berry, avec Agora Défense dans le cadre du Berry se raconte. Notre invité aujourd'hui, notre ami Christian Roth, professeur honoraire d'histoire-géographie au lycée Marguerite de Navarre de Bourges, membre de la Société archéologique du Berry, conférencier émérite, auteur de nombreux articles sur l'histoire du Berry. Cher Christian, merci encore d'avoir accepté de faire une troisième émission, en particulier sur Monseigneur Servenay, mais surtout sur le congrès de Bourges de 1900. Nous avons bien perçu au travers de votre seconde émission sur Monseigneur Servenay, qui est une personne quand même qui communique, qui est très 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 active. Je dirais un prélat, non pas aux idées républicaines, mais qui est disons en conformité un peu avec les républicains, faut bien reconnaître. Et là par contre, vous allez me dire qu'au congrès de Bourges de 1900, il y a un certain nombre de choses qui vont faire que Monseigneur Servenay va être mis en difficulté, je ne pense pas, mais va peut-être avoir quelques soubresauts. Je vous laisse donc parler du congrès de Bourges de 1900.
Parmi les activités du ministère de Monseigneur Servenay, il y en a un qui sort de l'ordinaire, parce qu'il reste exceptionnel. Bon, s'occuper des églises, s'occuper des pèlerinages, bon, ça fait partie de la fonction d'un ecclésiastique responsable du diocèse, mais là, c'est autre chose. En effet, dès 1896, il y avait déjà eu un congrès de prêtres à Reims, à l'initiative du fameux abbé Jules Lemire, député d'Hasbrouck, et par ailleurs propagateur des jardins ouvriers, ne l'oublions pas. L'abbé Lemire souhaite donner une suite. Il tâte du côté de Paris, refus du cardinal Richard. Il en tâte ailleurs, pas trop. Mais par l'entremise de l'abbé Pierre d'Abry, il trouve appui sur Monseigneur Servenay, qui accepte d'accueillir ce congrès des prêtres diocésains à Saint-Célestin, son séminaire qu'il venait de restaurer. Ça se passa donc en septembre 1900, mais quelques mois auparavant, en février, l'abbé Lemire vient faire une conférence à Bourges devant l'archevêque et de nombreux ecclésiastiques et séminaristes. Il y a plus de 600 prêtres. C'est vrai qu'il y en a 300 berrichons. Bon, évidemment, c'était plus facile pour eux de venir. Les inscriptions sont énormes. Toute la presse nationale parle de ces journées. Et il y aura un compte-rendu imprimé qui sera remis au pape quelques mois plus tard. Alors, parmi les interventions, c'est sur l'organisation des prêtres. Alors, évidemment, on a dit que c'était pour les détacher de leurs supérieurs hiérarchiques. Non, pas vraiment. Et une des interventions qui a beaucoup marqué, c'est celle d'un prêtre du diocèse d'Albi, l'abbé Biraud. L'amour de son pays et de son temps. Beaucoup d'éloges, quelques critiques. Il y en a qui parlent des 500 causeurs de Bourges. C'est vrai que, de toute façon, 600 prêtres, c'est une infime minorité sur les 50 000 ecclésiastiques qui existent à l'époque en France. Il y a 50 000 prêtres séculiers. Ça se passe bien, il y a de bons échos, les participants sont satisfaits. Bon, ça ne débouche pas sur des choses très concrètes, mais on a beaucoup échangé. Un certain nombre d'évêques sont venus, pas tous. Et certains ont fort critiqué, en particulier l'évêque d'Annecy. Rome est obligée d'intervenir et pour faire cesser ce duel oratoire entre Monseigneur Servenay et Monseigneur Isoard. C'est d'un aspect formel, sur le fond, le pape ne se prononce pas sur le différent. Et ce congrès a également alarmé un petit peu quand même le gouvernement français. Charles Dumay, qui est le directeur des cultes, donc le second personnage dans le ministère, a sévèrement critiqué Monseigneur Servenay. Vous avez commis une mauvaise action. Et le représentant du pape à l'Annonciature, en 1906, un petit peu plus tard, précisera que, évidemment, Monseigneur Servenay s'était compromis, ça c'est son point de vue, c'était pas le point de vue du pape, s'était compromis par le patronage qu'il accorda naguère au congrès ecclésiastique de Bourges, qui fut le point de départ des abbés démocrates du Sillon et des autres abbés critico-libéraux, innovateurs, et agent des tendances à s'affranchir de l'obéissance des évêques. Donc ça, c'est très grave.
Oh là.
C'est un monseigneur, Monsignor, italien, qui le dit, mais bon, ça ne représente pas la majorité des idées. Donc l'abbé Lemire va défendre son archevêque fers et ongles contre tous les dangers. En 1905, il va même, lors d'une intervention à l'Assemblée nationale, puisqu'il est député, il va rendre hommage à sa grandeur d'âme, il salue sa résistance au bureau des cultes, justement, et blâme les journalistes de l'avoir traîné dans la boue. Ça, c'est à l'Assemblée nationale.
Ah oui, quand même.
Pro-Servenay. Bon, il est sujet de tension, ça, c'est évident. Mais il a des défenseurs. Mentionnez le Sillon, oui. Qui joue un rôle très important avec M. Marc Sanglier.
Oui.
En 1902, vient à Bourges pour un week-end. Marc Sanglier fait une conférence sur l'avenir de la démocratie, l'éducation populaire et le Sillon. Et Monseigneur bénit le groupe lors d'une messe à la cathédrale. Donc, bon, il ne vient pas assister à leur réunion, mais bon, il les reçoit officiellement quand même à la cathédrale. Donc, il est pour les réformateurs et pour les républicains, il n'y a aucun problème. En août 1903, il y a un grand changement. Pie X succède à Léon XIII. Le décès du pape, 25 ans sur le Saint-Siège quand même. Donc, c'est un deuil personnel, mais pour Mgr Sévenet, qui était en profonde communion d'idées avec le Saint-Père, c'est encore plus grave. Et il est remplacé donc par Pie X, et bon, il y a des changements, mais en tant qu'archevêque, il reste fidèle au souverain pontife, même si les idées du souverain pontife ont évolué plutôt en reculant par rapport aux idées précédentes.
Ah, oui.
Mais il est fidèle, il va prôner autre chose, ce ne sont pas ses idées à lui, mais les idées du supérieur, tout simplement. Il fait amende honorable sur ses idées un petit peu avant-gardistes, il se soumet, alors certains ont parlé de volte-face, objectivement, oui, et désormais, il condamne le modernisme, il condamne la Béloisie, qui est mis à l'index, et bientôt excommunié alors qu'il l'avait soutenu auparavant. Il reste le défenseur de la papauté, mais le nouveau pape condamne les opinions novatrices en précisant que les ennemis du dedans sont plus dangereux que les ennemis du dehors. C'est pas très satisfaisant.
C'est pas simple pour lui.
Non, c'est pas simple pour lui.
Et c'est pour ça peut-être qu'il a jamais été élevé à dignité de cardinal.
Ah, on a plusieurs fois supputé d'une élévation au cardinalat, mais ça n'a pas abouti, parce qu'à Rome, il y avait des gens qui étaient franchement contre, et à Paris, encore plus.
Monseigneur Servenay, je trouve qu'il est très en avance par rapport à son époque, par rapport à certaines idées.
Hein. Ah, mais non, mais.
C'est une évidence.
Moi, je dis que c'est une figure atypique parce qu'il n'est pas dans le rang.
Ah non.
Et il va y re-rentrer à la suite du changement de pape, mais il ne défend plus ses idées, il défend sur ordre. Voilà. Et on va terminer sur la séparation, puisqu'il est l'évêque de la séparation.
Hein, alors.
L'archevêque. Donc lui, il est foncièrement concordataire. Et il dénonce l'unilatéralisme du décret du 9 décembre 1905. Et puis, il s'inquiète des futures ressources du clergé. Vous savez qu'il y a la question des associations paroissiales. Ouais. C'était très compliqué. Hein. Il a proposé une caisse de retraite pour le traitement du clergé. Bon, il est très sensible à l'ampleur des pertes immobilières qu'ont connues les diocèses. Alors pour Bourges, j'en rappelle que quelques-unes très simplement. Il perd le grand et le petit séminaire. Bon, alors le grand séminaire, c'est devenu le palais de justice pour Bourges, ne l'oublions pas. C'était le grand séminaire. Il perd un grand domaine à Ouzy, de Ouzy à Saint-Doulchard. Les archevêques avaient une propriété qui leur avait été donnée à côté de Châteauroux, à Touvent. Bon, et puis il y a plein de bâtiments officiels qui, les petits séminaires en particulier. Bon, Saint-Célestin, c'est devenu Jacques-Cœur, quoi.
Oui.
La liste est assez longue. Donc il faut faire face à tout ça. Alors à propos de l'archevêché, il est toujours archevêché, mais il va le perdre, parce qu'on lui fait, comme à tous les évêques, on lui fait des procès, parce qu'il ne veut pas donner des pièces justificatives, etc. Et il a un procès, il doit payer 9 471 francs de frais de procédure, et par jour de retard de dépôt des pièces, 1000 francs. Alors évidemment, il donne les papiers, parce que il ne peut pas payer des sommes faramineuses comme ça. La fermeture des écoles, le départ des congrégations, la déstructuration de l'enseignement libre, ça lui coûte beaucoup. Alors, les inventaires à Bourges, dans le Cher, ne se posent pas trop mal. Bon, il y a eu des manifestations, il y a eu quelques échauffourées. Bon, les quatre curés de Bourges ont eu des histoires, parce que il fallait déclarer les célébrations de messe.
Oui. Hein,
comme si c'était une réunion, la loi de 1884. Alors évidemment, y en a qui se sont fait prendre, et ils ont eu des histoires. Et puis, lui, il réside au palais de l'archevêché, mais le palais de l'archevêché, il en est mis à la porte. Le 14 décembre 1906, il est chez lui. Déjà 2 ou 3 jours auparavant, on est venu lui dire qu'il fallait déguerpir. Il a dit non, je ne partirai que par la force. Donc on lui a donné quelques jours. Le 14, on se représente encore. Bon, ben non, non. Ça sera le samedi 15 à 16h. Il proteste, bien sûr, mais bon, il est contraint de sortir. Alors il sort, il y a une grande foule sur la place de la cathédrale.
Bien sûr.
Il va à la cathédrale pour prier et il va rejoindre sa nouvelle résidence qui est tout à côté, 4 du Four, qui a été mis à disposition par un de ses paroissiens, Monsieur Vivier de la Chaussée, et il bénit les fidèles qui sont là. Le commissaire central dit 100 personnes et des journaux disent 2000 voire 4000. Bon, 4000, c'est un peu beaucoup, 100, c'est certainement faux. 2000, je ne sais pas, mais il y avait du monde. Et pour la petite histoire, je peux même vous dire que je connais indirectement une personne qui était la maman du chanoine Cottenay.
Ah.
Elle faisait partie de ceux-là. Alors ça fait pas 2000 ni 4000, ça fait une. Mais elle y était. C'était la personne du quartier. Et donc, il donne sa bénédiction au balcon qui donne sur la rue moyenne. On entend des cris « Vive Monseigneur, vive la liberté, vive le pape, à bas la franc-maçonnerie ». Mais on aurait entendu également quelques « à bas la calotte » de la part d'une poignée de contre-manifestants, car qui dit manifestation dit contre-manifestation. Quelques points rapidement sur l'épiscopat de Monseigneur Servenay. Comme dans son diocèse de Digne, il fait rédiger un nouveau catéchisme du diocèse en 1901, avec des questions et des réponses et des illustrations, 208 pages quand même, et puis un petit catéchisme destiné aux enfants du premier âge. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est que le premier âge, mais enfin, il a fait une édition spéciale. Et évidemment, vous ne serez pas surpris que cela a été édité par l'imprimerie Tardy-Bigelet, qui, par ailleurs, imprimait la semaine religieuse du diocèse, comme cela va de soi. Deuxième point, j'en ai que trois, il va créer de nouvelles paroisses. Parce que, sous la séparation, les évêques n'avaient pas la liberté de créer de nouvelles paroisses, même si le besoin s'en faisait ressentir. Donc lui, entre 1907 et 1909, il a été très rapide, il va en créer trois dans le Cher et une dans l'Indre. Alors, une à Saint-Joseph de Vierzon-Forges,
oui,
avec l'abbé Lucien Bedu, une à Saint-Célestin de Vierzon-Village, et une à Bourges, le Sacré-Cœur devenu Saint-Guillaume.
C'est ça.
Avec l'abbé Alphonse Pornin. Donc ça en fait trois pour le Cher, et puis il y en a une dans l'Indre, c'est celle de Pouligny-Saint-Pierre,
oui,
là-bas, à côté,
oui,
de Pouligny-Saint-Martin.
Oui,
alors quand on fait le total, bon, son action est quand même assez soutenue, et là aussi il a beaucoup publié dans la semaine diocésaine, 28 lettres et instructions pastorales, 461 pages.
C'est pas mal.
C'est quand même pas mal. Il aura des obsèques relativement grandioses. Dans l'assistance, il y avait quand même 15 prélats, donc 15 évêques, plus de 500 prêtres, beaucoup de personnes évidemment, dans la nef et à l'extérieur. Et il repose désormais dans la crypte de l'église basse qu'il avait fait restaurer. Donc il est enterré dans la cathédrale, mais à sa demande, aucun éloge funèbre n'a été prononcé, comme c'est la tradition, mais bon, lui, il s'en est dispensé. À peine était-il mort et enterré que le conseil municipal de Bourges et son maire, Monsieur Duclos, réclament le palais épiscopal comme hôtel de ville.
Ah.
Il en avait été chassé en 1906, mais bon, la situation, oui, était suspendue, c'était très compliqué. Je signale quand même, pour dire la date de rapprochement, il est mort le 18 octobre, et la demande du conseil municipal est du 29 octobre.
Oh là là.
Encore le temps de l'enterrer, et hop, on réclame. Et eh bien, ça sera chose faite le 22 février 1910. Donc, oh, depuis 1910, l'ancien hôtel épiscopal de Monseigneur Servenay, donc dernier évêque concordataire, archevêque concordataire, et dernier hôte du palais épiscopal.
Merci beaucoup, Christian, pour ce récit passionnant concernant Monseigneur Servenay. Je sais aussi que vous préparez, un autre le fait aussi, mais vous, concernant le cardinal Lefebvre, qui, je vous rappelle, archevêque de Bourges, de 1943 à 1962, élevé à la dignité de cardinal en 1960. Mais là aussi, un très beau parcours, une nouvelle histoire. Merci pour votre écoute, fidèle auditeur, auditrice de RCF. Bonne semaine et à très bientôt.